affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. C'est l'histoire de deux académiciens qui travaillent dans des disciplines très différentes. Lui est plasticien, son univers graphique se nourrit des sciences et du monde du vivant, en particulier des arbres. Voici Fabrice Hibert de l'Académie des Beaux-Arts avec ses aquarelles et ses installations. Elle est microbiologiste et professeure à l'Institut Pasteur. Ses travaux ont porté sur les bactéries pathogènes intracellulaires et le fameux ARN. Voilà Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Ensemble, ils viennent de sortir aux éditions Odile Jacob un guide illustré sur le monde invisible du vivant. Ce livre s'adresse au grand public. Il répond à 73 questions sur les microbes dans toute leur diversité et c'est une véritable bible. Archées, bactéries, champignons, microalgues, protozoaires, sans oublier les virus qui sont traités un peu à part. Nous verrons pourquoi. Pascal Cossard, c'est vous qui avez lancé ce projet il y a un peu plus d'un an. Bonjour et merci de venir nous en parler.
Bonjour.
Alors, la transmission des connaissances, notamment dans le domaine de la microbiologie, est un sujet qui vous tient à cœur. Vous aviez déjà publié un livre en ce sens en 2016, La nouvelle microbiologie, mais vous vouliez aller un peu plus loin parce que les retours que vous avez eus vous avaient peut-être un peu surprise.
Oui, en fait, je souhaitais écrire un livre qui est sorti donc en 2016 chez Odile Jacob, un livre sur toutes les grandes avancées de la microbiologie, parce que je trouvais que c'était un domaine qui explosait. Et d'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est « Des CRISPR au microbiote ». Je crois que vous avez entendu parler du microbiote et que les CRISPR ont été primés par le prix Nobel l'année dernière. Donc, je pense que c'était un livre qui vraiment faisait le point sur toutes les grandes avancées en microbiologie. Je pensais qu'il était pour le grand public, mais il était pour un grand public scientifique. C'est-à-dire qu'un scientifique qui avait envie d'en savoir plus, même un microbiologiste, trouvait des réponses à ses questions. Mais pour le grand public, je crois que j'étais un tout petit peu au-dessus du niveau. Donc je m'étais toujours dit, un jour il faudra, un jour il faudrait. Et voilà, le jour est venu, le jour où j'ai vu un article de l'Institut Pasteur où il y avait un petit dessin qui avait été réalisé par Fabrice Hibert. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa d'avoir une illustration. Et je me suis dit, mais c'est peut-être le moment de faire. Et donc, j'ai contacté Fabrice Hibert et en une heure de temps, d'ailleurs, ça s'est passé à l'Académie, je l'ai convaincu que les bactéries étaient vraiment des organismes fascinants, non seulement par leur forme, parce que lui, bien sûr, en tant que plasticien, il aime bien les formes différentes, mais surtout par les mécanismes qui sont impliqués, etc. Et il a tout de suite dit oui. Nous sommes allés voir Odile Jacob, qui a tout de suite dit oui.
Et c'était parti.
Mais j'ai commencé à écrire pratiquement en mars 2020. On avait déjà signé notre contrat, etc. Et très vite, je me suis rendu compte qu'avec le virus qui était en train de commencer à faire des dégâts, je ne pourrais pas parler de bactéries sans parler de virus. Et si je parlais des virus, il faudrait aussi que je parle d'autres microbes, c'est-à-dire de parasites, de microalgues, de levures, etc. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et j'en ai beaucoup parlé de ce livre, alors que contrairement au premier... J'osais pas trop en parler, c'était un peu le grand secret, j'étais un petit peu intimidée par les réactions que les gens pourraient avoir, etc. Alors que là, en en parlant, j'entendais « tu vas parler de ceci, tu vas parler de cela », etc. Et ça me donnait des idées.
Et vous l'avez testé, les textes, vous les avez fait lire dans votre
énormément,
entourage, visiblement.
Énormément. Dès que j'ai eu, disons, un certain nombre de pages écrites, de questions écrites, je les ai fait lire. Et je les ai fait lire par des gens qui les ont très bien corrigées. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien, quoi. Le regard du lecteur, je l'avais avant que le livre soit publié. Et donc, ce que j'ai souhaité, c'est que le livre soit écrit de A à Z avant de vraiment travailler avec Fabrice. Et après, nous avons travaillé ensemble.
Comment avez-vous procédé, du coup, dans cette collaboration?
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai donné le manuscrit, mais rien ne venait vraiment. Et donc, je lui ai dit, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc, on regardait les choses. Et vraiment, comme je le disais, il était très intéressé par les formes différentes. Un jour, je suis arrivée dans son atelier. Alors, il avait imprimé tout le document et il avait chaque question qui était sur une page. Il avait commencé à faire des petits dessins comme ça, des petites aquarelles. Et je disais oui, oui, non, oui, ah super, etc. Et de fil en aiguille, finalement, là où ça a bien marché, c'est quand on a passé des après-midi entiers ensemble. Parce que les formes différentes, c'est facile pour lui, mais les mécanismes et les explications sur des fonctions qu'ont les bactéries, sur les problèmes que posent les parasites et tout ça, c'est pas forcément évident.
Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Que recouvre exactement ce monde invisible du vivant? Quel est le point commun entre tous ces organismes dont vous nous parlez?
Alors, le livre est restreint à tous les organismes qui n'ont qu'une seule cellule. Donc, comme vous le savez sans doute, les bactéries n'ont qu'une seule cellule, les parasites n'ont qu'une seule cellule, les levures n'ont qu'une seule cellule. Et donc, c'est vraiment restreint à tous les micro-organismes qui n'ont qu'une seule cellule. Donc, je suis amenée à parler des classifications des trois grands domaines.
Vous pouvez nous les rappeler?
Oui, le premier grand domaine, c'est le domaine des bactéries. Le deuxième grand domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine des eucaryotes voulant dire que ce sont des organismes qui ont un noyau. En tout cas, c'est dans cette catégorie-là qu'on place les organismes qui ont un noyau. Et dans les organismes qui ont un noyau, il y a donc des protistes, c'est-à-dire des organismes unicellulaires. Et puis, il y a des organismes multicellulaires dont je ne parle pas, qui sont les plantes, les animaux, les hommes et d'autres organismes. Et puis la troisième catégorie, qui est très peu connue, parce qu'elle a été découverte il y a quelques dizaines d'années, ce sont les archées, qui sont un tout petit peu, on va dire, des organismes unicellulaires, une seule cellule, mais qui ont des mécanismes internes ou des composants de leur paroi qui sont plutôt proches des eucaryotes, qui sont un peu plus compliqués. Voilà.
C'est d'ailleurs l'une des questions. Quelle est la différence entre une archée et une bactérie ?
Oui, bah la différence entre une archée et une bactérie, c'est justement qu'il y a des composants qui sont différents et des mécanismes qui sont beaucoup plus compliqués chez les archées. Voilà. La question clé, c'est « et les virus ?» Eh bien, les virus, et j'insiste là-dessus, les virus ne font pas partie du monde du vivant.
Ils sont
stricto sensu. Ils sont à part. Les virus, ce sont des agents pathogènes qui peuvent infecter des bactéries, des archées ou tous ces organismes eucaryotes, les protistes et les plantes, les hommes et les animaux. Donc, les virus sont qualifiés souvent du mot de microbes. Ce sont des microbes parce qu'au moment où le mot microbe a été créé, c'était la période où Pasteur, Robert Koch découvraient qu'il y avait des maladies associées à des agents pathogènes. Et donc, c'est à ce moment-là où finalement, il y avait une sorte d'ignorance du mot précis qui qualifiait l'agent pathogène. Donc, on a dit microbe. Quelquefois, c'était un virus. Par exemple, le virus de la rage. Mais Pasteur n'a jamais vu le virus de la rage. Le virus de la rage a été vu bien après, au microscope. Quelquefois, c'était une bactérie. Par exemple, la bactérie du tétanos ou la bactérie du choléra. Mais là, les bactéries ont été vues par Pasteur et par tous ses collègues. Donc, les virus, en fait, ce ne sont pas des micro-organismes parce qu'ils ne se nourrissent pas, ils ne grandissent pas, ils ne se divisent pas vraiment. En fait, les virus, ils infectent des cellules, ils se déshabillent, si on peut dire. Le matériel génétique, l'ADN ou l'ARN, commence à pirater la cellule. Il y a de nouveaux ADN, de nouveaux ARN qui sont faits. Il y a des protéines qui sont faites et des nouveaux virus qui sont faits et qui sont sécrétés, qui sont expulsés de la cellule. Donc un virus n'est pas un organisme vivant, c'est un pirate. C'est vraiment un organisme qui va dans une cellule et qui sort. Et dans mon livre, j'utilise même le mot, c'est un coucou. Ceux qui connaissent ce que font les coucous vont faire leur nid chez les autres. Eh bien, les virus, c'est pareil. Ils vont dans une cellule pour les pirater. Et la cellule ne peut pas faire grand-chose. Elle essaie de combattre. Mais disons qu'au départ, le virus, il infecte et il se multiplie. Alors, bien sûr, il y a tout un système qui se met en place. Et c'est une des questions à laquelle je réponds, c'est qu'on a un système de défense qu'on appelle le système immunitaire. Et j'explique tout ça. Ce qui n'est pas forcément évident, hein, parce que finalement, parler du système immunitaire, je l'ai vu avec Fabrice, c'est compliqué. Vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est le système immunitaire, qu'est-ce que c'est un système, qu'est-ce que c'est l'immunité. Eh bien, je raconte bien précisément, le système immunitaire est fait de composants et de mécanismes. Et je raconte ce que sont ces composants. Vous savez bien, il y a les anticorps, mais il y a aussi des cellules qui font partie de tout ce système. Et tout ça, c'est illustré par Fabrice. Par exemple, quand je parle de macrophage, c'est une cellule qui, comme l'étymologie grecque le dit, est une cellule qui est capable de manger. On voit le macrophage qui mange une bactérie. Quand vous êtes attiré par ça, vous pouvez comprendre que le système immunitaire, c'est quelque chose de très efficace.
Vous abordez en réalité des questions très concrètes qui touchent notre quotidien. Il y a ce gros chapitre que vous évoquez sur la santé, avec des questions parfois toutes récentes, notamment une question sur le coronavirus SARS-CoV-2. A-t-il des propriétés uniques et lesquelles ?
Oui, ben je ne pouvais pas faire un livre sur les microbes sans quand même parler du SARS-CoV-2. Ceci dit, je ne voulais pas faire un livre sur uniquement ce virus. Mais c'est un virus qui a un grand patrimoine génétique, c'est-à-dire que à l'intérieur de la coque, si on peut dire, il y a donc son matériel génétique qui est de l'ARN. Qu'est-ce qu'il y a de particulier de cet ARN ? Il est assez grand. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un virus qui rentre dans des cellules de différents organes du corps. Vous avez des virus qui vont trouver ce qu'on appelle leur récepteur, c'est-à-dire leur porte d'entrée, uniquement dans une sorte de cellule, par exemple, que dans des cellules qui sont dans la cavité nasale. Lui, ce virus, il trouve son récepteur, qui s'appelle ACE2, il le trouve, oui, dans les cavités nasales, mais il le trouve aussi, par exemple, dans l'intestin, et il le trouve aussi dans les reins. Et donc, c'est comme ça qu'on a un virus qui produit différents signes cliniques, une maladie avec différents signes cliniques. Bon, il y a d'autres propriétés, mais je pense qu'on a d'autres sujets qu'on a envie d'aborder aujourd'hui.
Et oui, nous allons revenir aux micro-organismes. Les vrais, vous utilisez un vocabulaire assez imagé. Il y a les visuels de Fabrice Hibert, mais même vos mots sont eux-mêmes assez imagés. Et par exemple, une question, c'est est-ce que les bactéries se parlent et que se disent-elles ?
Oui, c'est justement ça, c'est ce que je trouve absolument fascinant. C'est qu'à l'heure actuelle, en microbiologie, il y a des tas de découvertes très nouvelles. Et notamment le fait que les bactéries ne sont pas des petites cellules isolées. Ce sont des cellules qui communiquent entre elles par des signaux chimiques. Elles ne font pas de bruit, elles ne font pas de son. Ou en tout cas, jusqu'ici, on n'en a pas identifié. Mais elles crachent en quelque sorte, elles sécrètent dans le milieu des molécules chimiques. Et les molécules chimiques sont reconnues par les mêmes bactéries. Et donc, elles ont des récepteurs qui font qu'elles se disent « Ah, il y a une de mes petites congénères qui est dans l'environnement ». Et quand il y a beaucoup de ces congénères qui sont ensemble dans une petite niche, on va dire, elles se reconnaissent entre elles. Et elles sont capables de mesurer le fait qu'elles sont en grand nombre. Et quelquefois, elles ont des actions communes qu'elles ne font que si elles sont en grand nombre. Et par exemple, vous avez une bactérie qui ne produira jamais une toxine si elle est toute seule. Mais si elle sent qu'il y a beaucoup de composés chimiques dans l'environnement, elle se dit « nous sommes nombreuses » et tout d'un coup, elles se mettent à fabriquer une toxine. Et si vous imaginez que cette bactérie-là, elle est par exemple dans votre intestin, vous pouvez très bien imaginer qu'il y a de la toxine qui est faite s'il y a beaucoup de bactéries. Et du coup, en gros, on a l'impression qu'elles sentent que si elles sont nombreuses, elles vont faire beaucoup de toxines et elles vont, en quelque sorte, gagner. Elles vont faire une vraie infection. Bon, on peut dire qu'elles ne réfléchissent pas, mais c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites chez les bactéries, justement, si elles ont atteint un certain nombre, si elles ont atteint un quorum. On appelle ça, dans notre langage, le quorum sensing, en anglais. Et vraiment, c'est ça. Si elles atteignent un certain nombre, elles font des actions. Et il y a un autre exemple que je montre dans le livre et qui est très bien illustré par Fabrice. C'est la fameuse bactérie qui s'appelle Vibrio Fischeri, qui est une bactérie qui est dans un calamar, dans une poche d'un calamar. Et l'histoire que j'aime bien raconter, c'est que ce calamar, il est dans le sable pendant la journée. Ce calamar, la nuit, il va chercher de la nourriture, va chercher des crevettes. Mais il y a d'autres prédateurs dans l'océan qui cherchent les calamars. Et il repère le calamar parce que le calamar fait une ombre portée sur le sol, sur le sable. Et le calamar a une poche dans laquelle il y a des bactéries qui sont capables de faire de la lumière. Et s'il y a de la lumière, il n'y a plus d'ombre portée. Donc, soit vous avez un calamar qui, dans sa poche, a quelque chose qui fait de la lumière, ça peut être des Vibrio Fischeri, soit il n'a rien. S'il n'a rien, il est la proie des prédateurs. Mais s'il y a beaucoup de Fischeri qui font de la lumière, l'ombre portée n'existe plus et il peut se promener toute la nuit et chasser les crevettes. À la fin de la nuit, il lâche toutes les bactéries qui sont dans sa poche et il repart dormir pendant toute la journée, ou en tout cas la journée pour les hommes. Voilà, donc ça, c'est vraiment une histoire qui décrit bien la façon dont les bactéries communiquent entre elles.
Nous sentons vraiment la volonté d'être à la pointe de la recherche la plus récente et de questions qui ont émergé ces dernières années. Il y a par exemple cette question, pourquoi parle-t-on autant de microbiote, un mot que nous entendons de plus en plus, même dans le langage courant, à la radio, dans les conversations, oui, sans trop savoir nécessairement ce qu'il recouvre d'ailleurs.
Alors, le microbiote, c'est un mot général qui veut dire qu'on a une assemblée de microbes, y compris de virus d'ailleurs. Donc, tous ces microbes, ça veut dire que dans ces assemblées, il y a des bactéries, il y a des archées, il y a des protistes, il y a des virus, il y a des amibes. Et finalement, ce que je dis bien dans ce livre, c'est que le microbiote, c'est un mot général. Donc, il y a, et il faut bien le savoir, il y a le microbiote intestinal, il y a le microbiote de la peau, il y a le microbiote buccal, il y a le microbiote vaginal. Il y a vraiment des microbiotes différents. La définition d'un microbiote, c'est une assemblée de microbes, mais cette assemblée, elle est en perpétuelle évolution. Donc, vous avez un microbiote intestinal qui est au jour X différent de ce qui sera dans 10 ans. On sait que ce microbiote, il évolue pendant toute la vie. On sait qu'il évolue en fonction de ce que l'on mange. Et on sait qu'il évolue en fonction des médicaments que vous preniez. Pas forcément même uniquement des antibiotiques. On sait que si on mange des antibiotiques pour une infection qu'on a, par exemple dans la gorge, on va tuer un certain nombre des bactéries qui sont dans l'intestin. Mais on va en favoriser d'autres, par exemple, etc. etc. Donc, c'est tout ça que j'essaie de raconter. Et la réponse à la question « Pourquoi on en parle tant ?», c'est parce que maintenant, on a les outils pour les analyser, alors qu'il y a 20 ans, on ne les avait pas. On est capable de faire de la séquence de génome à haute puissance. On est capable de stocker les résultats dans des ordinateurs. On est capable de demander aux ordinateurs de comparer les séquences, de nous tirer des résultats, de nous prédire des maladies, etc., etc. Donc, c'est vraiment une science qui est en pleine révolution. D'ailleurs, j'aime bien dire que le 21e siècle, c'est le siècle de la microbiologie.
Avec des applications parfois inattendues, notamment dans le domaine environnemental. Là, nous changeons complètement d'échelle parce que les bactéries jouent un rôle, par exemple, dans le contrôle du réchauffement climatique. Pouvons-nous apprendre dans votre livre.
Oui.
Comment cela se passe-t-il ?
Oui, alors peut-être que c'est justement bien de préciser pour les gens qui nous écoutent que ce livre, il n'est pas en 73 questions désordonnées. Il est quand même en questions ordonnées et il y a des parties. Donc il y a la partie les microbes et l'alimentation, les microbes et l'environnement, les microbes et la santé. Il y a 5 parties qui sont vraiment bien distinctes. Donc là, vous me posez la question du rôle des bactéries dans le réchauffement climatique. Bon, écoutez, ce que je pense, c'est que il y a des bactéries qui régulent un certain nombre de phénomènes et il y a un certain nombre de phénomènes qui régulent les bactéries. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des bactéries qui sont plus abondantes quand il fait chaud et des bactéries qui sont moins abondantes quand il fait froid. Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est qu'il y a des bactéries qui sont capables de produire de l'oxygène. Il y a des bactéries qui font de la photosynthèse. Il y a des bactéries qui utilisent la lumière du soleil pour utiliser le CO2 et transformer ce CO2 en oxygène. Donc, en gros, on est capable de jouer sur la composition de l'atmosphère. Et en jouant sur la composition de l'atmosphère, eh bien, on réduit des gaz à effet de serre et on produit de l'oxygène, qui est vraiment ce qu'on cherche à avoir. Non seulement de l'oxygène, mais aussi de l'ozone qui dérive de l'oxygène et qui va nous protéger du rayonnement du soleil et donc protéger du réchauffement climatique.
Vous parliez de vos différents chapitres et tout un chapitre est consacré à l'alimentation. Pourquoi avez-vous choisi d'autant développer ce chapitre si je me demandais si ce n'était pas pour vraiment insister sur ce rôle positif aussi des microbes.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que je trouve un tout petit peu dommage, et c'est plus vrai dans les pays francophones que dans les pays anglophones, le mot microbe est associé à une connotation négative. Alors qu'en fait, on vit avec les microbes. Les microbes sont absolument indispensables à beaucoup, beaucoup de choses. Quand on mange un yaourt, on mange un yaourt, mais on mange aussi les bactéries qui ont fabriqué le yaourt, puisque les yaourts sont fabriqués avec du lait qui a déjà été traité par la chaleur pour qu'il n'y ait plus que 2 sortes de bactéries qui sont capables de faire leur travail de fabriquer du yaourt. Donc, il faut vraiment se réaliser qu'on vit avec des microbes et même, comme je le disais, on a tous nos microbiotes qui sont là, sur la peau, dans l'intestin, etc. On les promène tranquillement tous les jours, ils sont là. Nous sommes des super-organismes. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, mais nous sommes des micro-organismes et des cellules eucaryotes, si on peut dire. Donc, voilà.
Et par exemple, dans les questions que vous abordez, il y a celle de la stérilisation et de la pasteurisation. Quels sont un peu les principes de ce rapport à l'alimentaire
Alors, la pasteurisation, donc le mot dérive de Pasteur. Pasteur, comme vous le savez, il a vraiment réalisé beaucoup, beaucoup de types de travaux. Et un des travaux qu'il a réalisé, ça avait été d'essayer de comprendre pourquoi certains viticulteurs faisaient du mauvais vin. Il l'avait appelé au secours et finalement, Pasteur a réalisé, c'est qu'au cours du début de la fermentation, ben, finalement, il y avait le développement de bactéries qui étaient non souhaitées. Et en chauffant un tout petit peu le vin qui était en train de se faire, on s'est débarrassé de ces bactéries-là. Et de fil en aiguille, ben, il s'est aperçu que pour d'autres mécanismes, pour d'autres fonctions, c'était bien de chauffer un peu. Donc quand vous prenez par exemple du lait et que vous le chauffez à une certaine température, vous le pasteurisez. Si vous le faites bouillir, vous le stérilisez. Donc il y a une différence vraiment. Mais ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire, c'est que si on stérilise, on empêche certaines bactéries qui donnent du goût de faire ce qu'elles font normalement. Donc il y a les avantages et il y a les inconvénients de ces deux techniques.
Vous vous intéressez aussi aux moisissures qui peuvent être conservées dans une alimentation saine ?
Oui, enfin, moi, si sûr, là, encore une fois, un mot qui a l'air d'être un tout petit peu péjoratif. Mais on a, par exemple, des aliments qui sont le résultat d'une fermentation. Par exemple, la choucroute, finalement, c'est un aliment qui dérive de chou qui est fermenté. Donc, la fermentation n'est pas, elle non plus, un mot négatif. Quelquefois, on parle de produits qui sont fermentés, on fait des grimaces, mais la fermentation, c'est un pas vers une bonification de certains légumes, si on peut dire.
Votre dernière question est consacrée à Pasteur, dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous êtes issu de cet Institut Pasteur. L'année prochaine, vous allez célébrer le bicentenaire de Louis Pasteur. C'est un hommage appuyé que vous vouliez à cette personnalité à la fin.
Alors, on va fêter le bicentenaire de la naissance de Pasteur, hein, 1822-2022. C'est un hommage, oui, mais c'est aussi, disons, une reconnaissance qui est vraiment faite pour justement montrer que en 200 ans, il y a les choses qui ont évolué et tout ce livre montre que ça a évolué. Bien sûr, il n'y a pas que Pasteur qui existe comme microbiologiste, mais je trouvais que c'était un exemple assez emblématique de la microbiologie française, j'ai envie de dire. Et effectivement, une sorte d'hommage à, aux 50 ans que j'ai passé dans l'Institut Pasteur.
La recherche n'est pas finie. Aujourd'hui, quels sont les champs qui vous paraissent les plus prometteurs en microbiologie ?
Alors, je pense que le champ très prometteur, le champ du microbiote, est un champ qui est très, très prometteur. Pour le moment, on est à une époque qui est très descriptive. Et c'est un petit peu frustrant pour les gens qui travaillent sur le microbiote. C'est-à-dire que, quelquefois, on peut travailler pendant des mois et des mois et des mois, et finalement, on est toujours en train de décrire le rôle de ce microbiote. Donc, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait qu'il est très important. Mais de dire qu'il y a une grande, grande avancée, je pense qu'on l'attend encore un peu, si vous voulez. Il n'y a pas eu de prix Nobel encore pour le microbiote. Vous voyez, on est encore à une étape descriptive. On sait que le microbiote, par exemple, stimule le système immunitaire, le microbiote intestinal. On sait que le microbiote intestinal stimule les cellules de l'intestin à produire des composants qui sont capables de migrer jusqu'au cerveau. Des hormones qui sont capables de migrer jusqu'au cerveau. Ça, c'est des notions qu'on n'avait pas auparavant. Mais commencer à dire que la composition d'un microbiote qui est celui-ci est prédictif de telle maladie, on est encore sur des œufs, si vous voulez. Donc là, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et puis, il va se passer beaucoup de choses aussi sur la connaissance des maladies, l'environnement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les écosystèmes. La microbiologie, l'écologie, on peut dire, a été très descriptive jusque maintenant, mais je pense que là, on est passé à la rencontre de différentes disciplines et que ça va être absolument passionnant.
Eh bien, un grand merci, Pascal Cossard. Je pense que ce petit livre, Le monde invisible du vivant, aux éditions Odile Jacob, va pouvoir nous aider à maîtriser toutes ces notions dont vous nous parlez pour comprendre les grands changements qui s'annoncent dans les années à venir. C'est donc illustré par Fabrice Hibert en 73 questions et à garder précieusement sur nos étagères aux éditions Odile Jacob. Merci et à bientôt.
Merci.